RCF. Jean-Paul Lamy, je rappelle que vous êtes jésuite et que nous parlons avec vous de la place des émotions dans la vie spirituelle. Nous disions avec vous que la relation à Dieu passe par le sensible. Nous pouvons être rejoints par des paysages, des paroles, des visages. Et puis il y a la parole de Dieu. Vous évoquiez cette parole qui suscite en nous des émotions. Mais vous disiez, il ne faut pas simplement réduire Dieu à nos émotions. Alors j'aimerais qu'on parle de ça. On ne peut pas le réduire à ça, à ce qu'on ressent.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des moments où on a des sentiments positifs et d'autres négatifs, ou d'autres rien. Ça s'appelle la sécheresse. Il ne se passe rien. Et c'est très surprenant, surtout quand la parole a parlé auparavant. Et tout doucement, on apprend à reconnaître que ce n'est pas parce qu'on ne sent rien que Dieu n'est pas là.
Ça, c'est un apprentissage.
Et ça, c'est un apprentissage. Et dans cet apprentissage entre émotion ressentie et non-émotion, on apprend à reconnaître qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre, que ce que j'ai ressenti venait pas seulement de moi, de mon imagination, de mes pensées. Non, parce qu'il y a des moments où j'ai bien envie de ressentir de nouveau un grand amour pour le Seigneur, mais rien.
Mais quand vous dites « quand j'ai ressenti », quelque chose. Ça peut être de l'ordre donc de l'amour, mais ça peut être aussi du rejet. Ça peut être
aussi du rejet.
En tout cas, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose et on l'entend profondément intérieurement. Mais l'alternance entre ce qui est senti et rien, ou un non-senti, permet d'entendre aussi que les choses que l'on a ressenties viennent de quelqu'un d'autre, et pas uniquement de moi et de ce que je pense. Et ça, c'est très précieux de s'en apercevoir, parce que, dans le même temps, la vie continue, et cette vie continue d'avoir beaucoup de goût, mais je ne sens rien intérieurement. C'est ce qu'a vécu Mère Teresa, par exemple.
Mère Teresa
qui a eu une très grande visite du Seigneur, qui l'a entendu pour elle qu'il fallait qu'elle fonde un ordre, qu'elle aille du côté des plus pauvres, sinon... Si elle n'y allait pas, les pauvres ne pourraient jamais entendre que Dieu est là. Elle l'a fait. Et à partir de ce moment où elle était complètement donnée déjà à cette nouvelle mission qu'elle avait reçue, plus rien à l'intérieur.
Non, mais plus rien en plus pendant 50 ans, d'après ce que disent les biographes.
Voilà, d'une longueur inouïe. Et en même temps, elle savait intérieurement la place où elle devait être. Et ça ne l'a jamais éloigné, en particulier de sa mission, de sa proximité avec les plus pauvres et avec un rayonnement qu'on sait.
Ce que vous êtes en train de dire, Jean-Paul Lamy, c'est qu'elle ne s'est pas basée sur ses émotions.
Voilà.
Elle ne ressentait rien et ça ne l'a pas empêché d'agir.
Et ça ne l'a pas du tout empêché d'agir. Alors qu'intérieurement, elle pouvait se sentir éloignée de Dieu.
Et alors comment vous l'expliquez-vous ?
Dieu se tait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il a parlé à l'extérieur par l'action qu'elle a menée ? Ça veut dire que Dieu se rencontre pas seulement dans la prière, dans sa parole, mais aussi dans les autres, en étant à sa juste place. Parce qu'elle a continué à sentir tout à fait ses émotions dans la rencontre avec les enfants, avec les mourants, avec ses sœurs qui sont venues les rejoindre.
Vous dire qu'elle n'avait pas le cœur sec. Avec les autres, elle était dans un amour.
Ça ne veut pas dire que sa sensibilité avait disparu. Mais dans la relation avec Dieu, il n'y a plus
de ressenti. Oui, alors ça, on peut vous dire, mais c'est des géants de la foi. En quoi nous, ça nous rejoint ? Et d'ailleurs, on n'aimerait pas vivre la même chose, entre parenthèses.
Ce sont des géants de la foi, mais c'est aussi beaucoup plus quotidien. Il y a des moments où, effectivement, dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas de ressenti. Et ce n'est pas pour ça que Dieu n'est pas là, et ce n'est pas pour ça que notre action n'est pas bien orientée, en particulier vers les autres, et on peut avoir complètement notre place.
Jean-Paul Lamy, nous parlions de Mère Teresa. Alors, il y a une autre figure qui vous est chère, c'est Ignace de Loyola, qui a eu, lui, le don des larmes. Il pleurait beaucoup au début de sa vie spirituelle. Et puis, ça s'est tari, finalement, ses larmes. Il a vécu un petit peu un chemin similaire à Mère Teresa. Qu'est-ce qui les rapproche ?
Ce qui les rapproche, c'est qu'ils sont donnés complètement à Dieu et l'un et l'autre. Mais que Dieu n'agit pas avec l'un et avec l'autre de la même manière. Avec Ignace, ça a été le don des larmes. Effectivement, très tôt, au moment de sa conversion à Morez, à cause d'un pauvre qui, il était, il ne faut pas oublier que c'était un chevalier, que c'était un homme de guerre, et un homme, ça ne pleure pas. Voilà. Il donne ses beaux habits à un pauvre, et le pauvre se fait arrêter parce qu'on lui dit « tu as volé ». Et alors Ignace, tout d'un coup, alors qu'il a fait un don à quelqu'un, est ému profondément jusqu'aux larmes que ce quelqu'un soit maltraité.
La miséricorde, il ressent la miséricorde.
La miséricorde vis-à-vis de cet homme. Et ça va durer longuement dans sa vie, y compris au moment où il fonde la compagnie et où, en écrivant les constitutions, il souhaitait demander à Dieu quelque chose d'une confirmation de ce qu'il était en train d'écrire pour la compagnie. Or, habituellement, c'était des larmes qui lui venaient en sachant que, ah oui, ça c'est juste.
C'était une confirmation pour lui.
Confirmation pour lui. Et à un moment, il demande une confirmation sur la question de la pauvreté dans la compagnie et rien.
Plus de larmes.
Plus de larmes. Et il lui a fallu entendre que Dieu pouvait lui parler aussi sans des larmes. C'est très intéressant. Alors, par rapport à Mère Teresa, il a vécu une période de sécheresse beaucoup moindre dans le temps. Mais du point de vue de la manière de se laisser conduire intérieurement, soit dans les larmes, soit dans le rien du ressenti, ils sont semblables.
Parce qu'ils agissent au-delà du ressenti.
Voilà.
C'est-à-dire que ce n'est pas le ressenti qui me fait agir, non. Mais c'est le don de ma personne à la suite du Christ. Ressenti ou pas, j'y vais.
Et Dieu est présent à travers la transformation qui s'opère parce que je reste fidèle aux décisions qui ont été prises auparavant et dans lesquelles j'ai tout à fait entendu que Dieu était présent. Pour Mère Teresa, c'est clair, elle a pu tenir ses 50 ans parce que la visite qu'elle a reçue de Dieu à l'intérieur n'a pas bougé.
Oui, mais alors, il faut quand même expérimenter, à un moment donné de sa vie spirituelle, cette consolation, ce qu'on appelle une consolation. Sinon, on ne peut même pas y faire référence. Y a un point de départ, quand même.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'expérience spirituelle. C'est-à-dire d'entendre qu'à un moment, on est mené de l'intérieur, de manière très inhabituelle, très inattendue. Ce n'est pas ma fabrication, ce n'est pas moi qui ai pensé un projet, c'est... J'entends que quelque chose surgit en moi qui m'invite, mais qui me laisse libre de répondre.
C'est l'esprit.
Et ça, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que cette expérience, elle n'est pas nécessairement nommée, mais c'est exactement ce qui se passe aussi dans un beau paysage, devant une toile magnifique, devant une liturgie, Paul Claudel qui se convertit comme ça. On est mené de l'intérieur et on sait. Alors, on ne met pas nécessairement... Beaucoup de gens font l'expérience, mais on ne met pas les mots dessus, tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à les mettre.
Mais Jean-Paul Lamy, la nature humaine est faite de telle sorte qu'on préfère quand même ressentir et être consolé.
Ben oui, tout à fait.
Sinon, on est quand même assez désemparé.
Oui, et je crois que de fait, il y a des expériences, comme pour Mère Teresa, il lui a donné la possibilité de porter sa vie en étant, d'une certaine manière, proche de la croix du Christ par la misère qu'elle a pu côtoyer. Et elle l'a partagée de cette manière-là. C'est-à-dire, sa sécheresse n'était pas un obstacle parce qu'elle la vivait avec le Christ.
Ça nous encourage tous à être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, mais à ne pas non plus nous appuyer que là-dessus. C'est pas parce que je sens rien qu'il se passe rien dans ma vie.
Voilà. Exactement, mais on l'entend bien dans la vie ordinaire, toute simple.
Oui, en même temps, dans un monde où on valorise beaucoup les émotions, ressentir. Certains disent « j'aime m'éclater, j'aime ressentir ».
Tout à fait. Et la vie ne se réduit pas à ça. On l'apprend d'une certaine manière à nos propres dépens, qu'on soit chrétien ou non. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un très grand désir d'être tout le temps en train de ressentir que c'est cela qui se passe. Non. La banalité du quotidien fait que, très souvent, on ne sent rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus vivant.
Dans la tradition ignatienne, vous parlez d'alternance entre consolation et désolation ?
Oui, consolation et désolation spirituelle. C'est-à-dire une manière d'être dans l'allégresse, en l'élan vis-à-vis de Dieu, ou au contraire, d'être dans le dégoût de la vie, dans les choses troubles, ne plus savoir où on est.
La routine.
Et on se demande vraiment si on est encore chrétien et si on est encore vivant. Ça, c'est très clair. En même temps, dans cette expérience négative de la désolation, on entend aussi que la consolation, ce n'était pas moi qui me la donnais. J'apprends qu'effectivement, tout est don et grâce, comme dit Ignace. C'est la troisième manière, enfin la troisième façon pour laquelle on est désolé, nous dit-il. C'est qu'on apprenne intérieurement que tout est don et grâce.
Comme la vie qui nous est donnée, dont on parlait.
Ben oui, mais on a oublié qu'elle est donnée.
À demain, Jean-Paul Lamy.